enjeux internationaux, Thierry Garcin.
Bonjour Thierry.
Et bonjour Émilie.
Ah, donc aujourd'hui, vos enjeux internationaux nous mènent aux Philippines et interrogent l'étrange personnalité de son président.
Avec ses excentricités, et puis on va parler de la vie politique intérieure avec notre invitée Sophie Bosso-Durocher. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheuse associée au Centre Asie de l'Institut français des relations internationales. Alors les Philippines, colonie espagnole jusqu'en 1898, colonie américaine pour ainsi dire jusqu'en 1946, c'est un archipel, 7000 îles, données pour 103 000 millions d'habitants aujourd'hui, 70 millions, j'ai regardé hier, il y a une vingtaine d'années, peut-être 150, dit l'INED, pour 2050. Alors sur le plan religieux ou spirituel, il s'agit d'un ensemble culturellement chrétien, dans un environnement essentiellement musulman, bouddhiste, et puis confucéen ou confucianiste. Sur le plan politique, il faudrait longuement s'interroger sur le système politique qui, depuis des décennies, ne cesse de réserver des surprises hautes en couleur. En ce moment, c'est depuis juin, le président, vous l'avez dit, Duterte, il faut prononcer, 71 ans, ancien avocat en poste donc récemment depuis juin dernier. Il a l'insulte facile parce qu'il a tour à tour et publiquement traité de fils de pute l'ambassadeur américain à Manille, le pape, le président Obama. Et il incite ses concitoyens par ailleurs à pratiquer la justice expéditive contre les trafiquants et les consommateurs de drogue. Sur le plan économique, on cite fréquemment l'oligarchie autocratique des grandes familles. Et sur le plan stratégique, il a une relation essentielle évidemment avec les États-Unis. Alors on commence peut-être tout simplement par l'actualité. Il était au sommet de l'ASEAN il y a quelques jours. En fait, c'est quelqu'un qui réserve des surprises à chaque déclaration.
Absolument. Il était à l'ASEAN et il a traité Obama de fils de pute, ce qui fait que Obama a refusé de le rencontrer. Il a donc mis l'ensemble des pays membres de l'ASEAN dans la gêne.
Et c'est le moins qu'on puisse dire quand
et
même.
Et les discussions ont tourné autour de cette déclaration impulsive plutôt que sur des sujets de fond qui sont nombreux aujourd'hui en Asie du Sud-Est.
Si c'est le cas, mais c'est anecdotique, j'ai vu quand même, si c'est le cas, et c'est une erreur du président Obama, qu'ils se sont quand même croisés, qu'ils ont parlé.
Ils ont parlé de quelques minutes.
Oui, c'est une erreur totale, après avoir dit qu'on voulait...
Non, ils ont parlé quelques minutes dans un couloir, voilà, mais effectivement, le dommage était fait, et on n'a parlé que de ça, ce qui fait qu'on a réduit une réunion importante à une déclaration impulsive. Comme vous le disiez, ils traitent tout le monde de fils de pute.
C'est le minimum de l'échange.
Voilà, on commence par ça. Et puis ensuite, on rentre dans le sujet. Donc on voit bien que c'est un politicien qui bouleverse les codes traditionnels et donc qui surprend. La question, c'est jusqu'où va-t-il aller et jusqu'où va-t-on se laisser surprendre ?
Est-ce qu'il a été bien élu ?
Alors, il a été confortablement élu avec 40% des voix, ce qui montre effectivement que les Philippins ont un besoin de changement et que les règles qui prévalaient avant ne sont plus satisfaisantes pour l'ensemble des citoyens. Donc, il a fait une campagne assez étonnante. D'abord, il s'est présenté le dernier. Il s'est présenté en décembre, alors que les premiers candidats avaient annoncé leur projet présidentiel dès le mois de septembre. Donc, il est rentré très tard dans la course. Et puis, progressivement, il a rattrapé du terrain. Et à un moment, il est devenu l'option numéro un, alors que personne ne l'avait vu venir. Alors, il est devenu l'option numéro un, avec là aussi des formules à l'emporte-pièce, mais qui plaisent aux Philippins. Il faut quand même pas oublier 103 millions d'habitants, dont 25% vivent encore sous le seuil de pauvreté. Une situation de croissance économique qui profite surtout aux grandes villes. Or, les Philippins vivent encore à la campagne. Et puis, une situation politique assez instable, notamment avec une progression de la guérilla communiste et toujours cette guérilla islamiste dans le sud, à Mindanao, dont il est à peu près venu à bout dans sa ville, où il a été maire pendant 22 ans, à Davao. Et donc, si vous voulez, fort de ce résultat, il a proposé de transférer les méthodes utilisées à Davao sur l'ensemble du pays pour rapidement venir à bout de cette insécurité.
Mais il est quand même dangereux à lui-même et à son peuple en première analyse parce qu'il propose la justice expéditive et qu'on refroidisse un certain nombre de consommateurs de drogue et de trafiquants de drogue. Et alors les dépêches très diverses, AFP, etc., disent depuis qu'il est arrivé 1700 morts, 3000 morts, enfin je ne sais pas, mais disons qu'il est, il faut quand même faire attention ou pas avec ça.
Oui, oui, on en est pour l'instant à 3000 morts. Ce qui est très dangereux, c'est que tout le monde se fait justice, si vous voulez.
Oui, mais et donc on a eu. C'est la guerre civile, ça.
Absolument. On n'y est pas encore. On a eu des rapports absolument accablants des ONG où effectivement des enfants, des personnalités dans la rue se promenant étaient abattus, prises pour quelqu'un d'autre. Enfin, donc voilà, donc on se fait justice et ça devient quand même très dangereux, un climat d'insécurité réel.
Est-ce qu'il a un programme quand même politique et économique ?
Alors, son programme, c'est de venir à bout de la pauvreté. Hein, on parle effectivement de ces 25 millions de Philippins qui vivent sous le seuil de pauvreté et de la corruption. Hein, et promouvoir la réconciliation nationale. Donc,
ça pauvreté, commence bien, il prend les bonnes
pauvreté c'est créer des emplois. On ne sait pas comment il va faire, parce qu'il ne l'a pas annoncé, mais créer des emplois. Venir à bout de la corruption généralisée, dit-il, surtout dans la bureaucratie, c'est une belle parole, mais faut-il encore avoir les moyens de le faire? Et puis la réconciliation nationale, il s'y est attelé, puisqu'il a déjà entrepris des négociations et avec les communistes et avec les musulmans. Donc là-dessus, il pourrait effectivement aboutir à des résultats. La question, c'est est-ce que ces résultats vont être durables? C'est-à-dire que est-ce que ces mouvements, qui vont probablement signer un accord avec lui, vont tenir leur engagement? Et est-ce que l'État philippin va être capable également de tenir ses promesses? Vous savez, ce sont des serpents de mer aux Philippines. Ça fait plus de 50 ans que cette guérilla sévit. Plus de 400 000 morts. Donc, on est quand même dans un vrai problème structurel d'identité nationale, d'intégration nationale. C'est pas par des formules rapides qu'on va régler le problème.
Juste un mot de la dimension internationale. D'abord, est-ce qu'ils échangent beaucoup avec le reste économiquement avec le reste de l'ASEAN?
Non, alors c'est un partenaire marginal de l'ASEAN. On est à moins de 10% des échanges des Philippines qui vont principalement vers les États-Unis, vers l'Australie et vers le Japon. Donc ça, ce sont les principaux partenaires.
Puissance occidentale.
La Chine est évidemment en train de rattraper du terrain, mais avec des ralentis.
Il est très ambigu avec la Chine parce qu'il a de très mauvaises relations à cause de contentieux insulaires. Mais alors il dit, moi si la Chine me donne des chemins de fer, des trains, je la fermerai.
Voilà, exactement. Donc il a une relation, je dirais, ambiguë, mais avec beaucoup de, avec beaucoup de partenaires. Ce qui est important de comprendre là, c'est que les Philippines sont en manque d'infrastructures de tout ordre, et donc il est essentiel qu'il y ait des gros investissements. L'État philippin n'est pas capable de financer ces investissements, et donc Duterte propose que la Chine finance ces projets ou directement ou par le biais de la Banque asiatique pour les infrastructures précisément qui devraient servir à cela.
Juste d'un mot, il y a beaucoup de choses à dire, d'un mot pour les États-Unis, la relation avec Washington.
Alors ce qui est important, c'est que le président Duterte repense, si vous voulez, cette relation qui est une relation très ambiguë, très émotionnelle avec les États-Unis. Parce que les États-Unis n'ont pas fait que du bien aux Philippines.
Les Américains, a-t-il dit.
Pardon ?
Je les hais, les Américains.
Il veut couper le cordon ombilical, comme il dit. Mais c'est un cordon ombilical, il faut bien le comprendre, que les États-Unis ont mis en place. Et les États-Unis entretiennent cette relation néocoloniale avec les Philippines, par toutes sortes de manières. Ce qu'il dit, c'est qu'il est temps aujourd'hui de repenser les règles du jeu, que les États-Unis sont un des partenaires principaux des Philippines, mais pas le père de la nation. En tout cas, ce n'est certainement pas le 52e État des États-Unis, comme on l'a prétendu parfois. Et il faut bien comprendre que ce rapport avec les États-Unis est également un rapport compliqué avec l'élite philippine qui, elle, est très proche de Washington et que donc ça va poser de vrais problèmes à terme.
Merci beaucoup Sophie Boisseau-Durocher, donc chercheuse associée au Centre Asie de l'Institut français des relations internationales. franceculture.fr pour écouter l'émission, la télécharger. Demain, nous allons parler évidemment à propos du sommet de Bratislava, de ce Conseil européen informel de la gestion du Brexit par Bruxelles. Notre invité sera Christian Lequen.
Et de l'avenir de l'Union européenne, j'imagine, par la même occasion.
Oui, déjà du présent, il y a de quoi dire.
Merci beaucoup,
Thierry Garçon. Vous avez tout à fait raison, Émilie.
Et à demain, donc.